Eh bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez tous correctement. Bienvenue dans ce séminaire Recherche participative de la boutique des sciences de l'Université de Lyon. Moi, je suis Hélène Chauveau, je suis chargée de projet au service culture, sciences, société, et puis je suis docteur en géographie accessoirement, et j'animerai cette séance aujourd'hui. Donc, comme il est d'usage, je vous rappelle juste, s'il vous plaît, de, si c'est possible, couper vos caméras et vos micros pendant le temps de présentation. Et puis, voilà, de poser vos questions via le chat et puis d'utiliser le petit logo lever la main ou d'inscrire dans le chat que vous voulez prendre la parole au moment où, voilà, si, on donnera aussi la parole via vidéo et audio pour ceux et celles qui voudront poser des questions à la fin. Donc nous nous retrouvons pour cette deuxième séance de la saison 2020-2021 de nos séminaires en format webinaire une fois de plus malheureusement, même si finalement ça nous permet aussi voilà, de toucher d'autres personnes et d'accueillir des personnes de plus loin, voilà, de hors Lyon aussi. Donc on est ravis aussi de ce format-là, même si ça permet moins d'interactions. Donc ce séminaire, pour rappel, il prend place dans l'activité de la boutique des sciences, qui est un dispositif de recherche participative de l'Université de Lyon. Il en existe aussi une à Montpellier, plus proche des Nîmois qui sont peut-être parmi nous. Et donc c'est un dispositif qui cherche à mettre en lien la société civile avec le monde de la recherche. Et on propose chaque mois, dans ce cadre-là, un temps d'échange de bonnes pratiques et de réflexion méthodologique sur le thème des recherches académiques coproduites avec des citoyens, dites donc recherche participative, et pour essayer d'en saisir un petit peu, voilà, les spécificités, les atouts, les limites, les points communs, les différences. Donc les séminaires de la saison dernière sont d'ailleurs disponibles sur le site de la boutique des sciences. Je voulais juste vous faire passer la petite slide, voilà, avec l'indication. Donc sur notre site, rubrique ressources et podcasts. Donc cette année, on se retrouve chaque premier jeudi du mois autour d'exemples de recherche participative aussi variés que sur des thèmes comme le rôle de la médiation dans les co-recherches, les rapports police-population, les impacts d'une boutique des sciences, les pratiques participatives au jardin ou les instruments de musique, comme vous le voyez dans cette programmation qui est aussi à retrouver sur notre site. Et chaque mois, vous pouvez vous inscrire au séminaire suivant. Donc pour ce mois de décembre et pour aujourd'hui, nous sommes très heureux d'aborder le thème du co-design. Et pour ce faire, j'accueille donc Marie-Julie Catoire-Brisson. Bonjour Marie-Julie.
Bonsoir à toutes et à toutes et à tous.
Donc vous êtes maîtresse de conférences en design et communication à l'Université de Nîmes, membre du laboratoire Project, qui est spécialisé dans l'innovation sociale par le design. Et vous allez échanger avec nous en particulier sur deux projets qui montrent comment le design coproduit entre usagers, professionnels et chercheurs-chercheuses peut apporter des réponses aux enjeux de risque, aussi bien dans le domaine de la santé que de l'environnement, et les questionnements que tout cela pose. Donc voilà, aux auditeurs, aux auditrices, n'hésitez pas à poser vos questions, même pendant le déroulé sur le chat avec le logo conversé. Je m'en ferai l'écho. Et puis voilà, je laisse Marie-Julie se présenter plus en longueur et nous dérouler ses travaux pendant voilà, une grosse demi-heure, 40 minutes, avant d'échanger avec vous. Merci à tous et à toutes d'ores et déjà d'être là. Marie-Julie, je vous laisse partager votre présentation. Et oui, juste pour information, donc la séance est enregistrée puisque nous rediffusons ensuite en podcast voilà, les différentes séances.
Merci Hélène, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Merci pour cette invitation, je suis ravie de découvrir toute cette initiative de la boutique des sciences. Et comme vous, tu le disais Hélène, cette idée qu'on peut élargir aussi en fait la discussion et les échanges avec bon, le côté, voilà, hein, d'un côté, on en a marre d'être devant nos écrans, mais en même temps, on peut être plusieurs à pouvoir échanger. Alors, je vais partager du coup mon... Est-ce que c'est bon? Normalement, vous voyez mon écran.
Ouais, c'est tout bon.
Et puis, je ne sais pas, qu'est-ce qui serait mieux peut-être pleine largeur, je sais pas. À moins que je puisse l'agrandir.
Normalement, pour mettre en diapo, ouais, voilà.
Pleine largeur peut-être, et ouais, mais ça va être comme ça. Bon, je sais pas si je peux faire mieux. Ok.
Peut-être la petite bulle verte, est-ce que ça l'agrandirait pas aussi en
Et
largeur?
sinon, si je fais ça, c'est mieux. Est-ce que c'est mieux pour vous là? C'est en plein écran?
Vois pas de changement de mon côté.
D'accord.
On voit bien de toute façon
On voit bien comme ça.
déjà, ouais.
Ok. Donc je vais rester comme ça parce que pour moi, pour naviguer, c'est mieux. Ok. Alors, donc bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie donc d'échanger avec vous. Je vais vous parler ce soir, en effet, d'innovation sociale par le design, de design social, puisque c'est la spécialité du laboratoire Project. Comme l'a précisé Hélène. Et puis, je vais vous parler de recherche-projet aussi. Alors, d'emblée, l'idée, c'est de tisser les liens avec la recherche participative. Donc, on pourrait dire que c'est une forme renouvelée de recherche-action participative qui mobilise les outils de médiation et de créativité du design. Bon, d'abord, avant de vous parler de tout ça, je voudrais peut-être parler d'une anecdote. Je pense que, en tout cas, moi j'aime bien quand on parle comme ça de méthodo, qu'on m'explique un peu aussi des parcours, pourquoi j'ai eu envie de travailler avec ces méthodologies-là participatives, finalement, alors que je viens d'une formation plutôt à l'audiovisuel, à la production audiovisuelle. Et puis, comment je passe de cette formation professionnelle à la production d'images à une recherche par les images. Alors ça, c'était pour la petite anecdote, c'était avant que j'arrive à Project. Avec une collègue, on avait créé donc l'association L'œil critique. Vous voyez notre logo à l'époque, on était super motivés. L'idée, c'était de faire un atelier d'éducation citoyenne et participative aux médias. Donc, notre grand discours à l'époque, ça existait encore, les cours d'éducation civique à l'école primaire, et c'était de dire, ben voilà, ce sont des fondamentaux de la citoyenneté. Ben nous, on propose un kit de survie en milieu médiatique et numérique. Et donc, l'idée, c'était déjà de faire pratiquer les médias, les images. Donc, ça se matérialisait par faire des courts-métrages de fiction ou documentaires, faire des ateliers autour de la radio, autour de la narration, dans des collèges, des foyers sociaux, de la CUB, donc de la communauté urbaine de Bordeaux. Et puis tout ça, ça a débouché sur cet article que je présente là rapidement, parce que c'est juste pour l'anecdote, avec ma collègue Laura Yankevi-Sioutet. Moi, j'ai travaillé avec la vidéo, elle a travaillé avec le dessin, dans des contextes différents, mais toutes les deux en se disant que la recherche avec les images était un autre moyen de pouvoir faire de l'enquête et surtout de libérer la parole, puisque dans mon cas, avec la vidéo, je voulais travailler sur la thématique des rituels de la vie étudiante sur le campus. Donc, comme on le voit en bas à droite, ce sont des étudiants qui ont décidé de montrer en 10 plans, avec un petit court-métrage en 10 plans, l'évolution d'un check, donc cette pratique qui consiste à se saluer par un signe distinctif particulier, et de montrer comment finalement ce signe distinctif, dans le temps, montrait la construction d'une amitié. Et c'était un des deux grands types de rituels. C'est-à-dire construire des relations sociales. Il y avait plusieurs exemples. Il y avait les relations amoureuses, les relations amicales. Il y avait une super histoire d'amour qui commençait à la BU, avec un effet de sèche-cheveux pour faire le vent. Bon, voilà, c'était un petit peu une parodie des séries télé. Et puis, il y avait aussi, à l'inverse, des rituels très différents d'expérience du campus, comme un lieu de solitude. Je me souviens d'ailleurs d'un petit court-métrage qui s'appuyait sur la musique de Requiem for a Dream, si vous l'avez en tête, hein, cette musique lancinante. Dans les couloirs sans fin de l'université de Bordeaux, on y était, là, on voyait la solitude. Et puis là, celui-là qui nous montre cette pratique du port des écouteurs, un signe distinctif de la génération, hein, c'est ce qu'il me disait, pour en même temps, c'est un refuge, surtout quand on est seul et qu'on n'a pas encore créé ses amis à l'université, et en même temps, c'est la culture de la génération Y. Donc, vous voyez comment déjà j'avais cette idée-là. Puis, j'arrive donc au design social avec l'idée que cette pédagogie participative avec le dessin, la photo, la vidéo, ça peut aussi être utilisé non pas pour concevoir des médias, mais dans une optique de conception participative de services dans la lignée de l'innovation sociale par le design. C'est ensuite comme ça qu'on va se définir au laboratoire Project. Donc là, c'est plutôt des travaux que je mène depuis 2015 et qui ont débouché avec d'autres collègues. Donc je le salue parce que je sais qu'il est là. Thomas Watkin est avec nous ce soir et nous avons d'ailleurs publié un article qui est encore en cours de publication. Sur ces questions-là, c'est-à-dire à un moment donné, bilan de 5 ans de recherche-projet en innovation sociale par le design. Dans mon cas, c'était sur la santé, dans le sien, sur l'habitat. Et on a essayé d'expliquer comment ça transforme la recherche participative, mais aussi la recherche en sciences humaines et sociales de manière plus large. Donc voilà, ça c'était pour l'anecdote, le contexte. Et puis, avant de rentrer plus en détail sur les deux exemples qu'a présenté Hélène, c'est-à-dire que je vais vous parler de deux types de risques, des risques plutôt liés à la santé publique avec la problématique de l'insomnie chronique, et puis des risques naturels avec la problématique de la canicule. Et en fait, l'idée, ça va être non pas de dérouler pour chaque projet le cadre théorique, la méthodo, les gagnants. Mais je l'ai plutôt fait sous forme de discussion où je vais me poser trois questions à moi-même, en fait, comme si on le faisait voilà, sous forme d'une discussion. Pourquoi participer? Avec quels acteurs, en fait, on participe, quoi? Ce qui va m'amener à vous expliquer quels étaient les besoins de recherche un peu qui ont amené la participation. Concrètement, comment on participe? C'est-à-dire quels ont été les outils, notamment de médiation par le design, et puis les résultats que ça a donné. Et puis la troisième question, ça sera, bon ben ok, alors du coup, comment ça transforme justement la question de la médiation scientifique et comment ça amène à produire des savoirs autrement? Mais juste avant de me questionner, de m'auto-questionner, je voudrais juste faire quand même un petit bilan. Alors là, le but, c'est pas du tout de faire un cours théorique. Vous voyez, j'ai même pas mis d'auteur. C'est un petit schéma que je présente vite fait. Mais on parle de participation. C'est aussi des choses qu'on a pu présenter. Mais là, je l'ai développé un peu par rapport à ce que je voulais vous présenter ce soir avec mon collègue Thomas Watkin, parce que c'est vraiment des questions qui nous préoccupent aussi sur la participation à la fois dans la recherche et dans la conception. Et finalement, quand on parle de design et participation, c'est ça que je voudrais dire pour avoir quelques petits repères quand même sur ce dont je vais vous parler ce soir. Et puis aussi parce que c'est des approches qui sont vraiment à la mode. Et puis des fois, du coup, en fait, on a tout ce mélange, alors que finalement, c'est des manières quand même différentes. Il y a des points communs, mais différentes d'impliquer les participants. Donc moi, quand je parle de design et de participation, je vais avoir en tête le design comme une discipline de recherche. Hein, donc, la question de la participation dans la recherche, ça existe depuis longtemps. Donc, je ne vais pas les détailler, hein, mais je pense à la recherche-action, je pense à la recherche-intervention, ou je pense plus récemment au développement des sciences dites participatives. Et puis, OK, donc d'un côté, il y a la recherche participative. Et puis, le design, c'est aussi une pratique de conception. Et dans le champ de la conception participative, là aussi, c'est pas nouveau, quoi. Je pense au design participatif scandinave des années 70, aux travaux sur le co-design à la Sanders, plutôt aux États-Unis. Nous, on parle aussi de co-conception. Et puis, ce dont je vais vous parler, c'est ce qu'on développe au laboratoire Project, c'est d'innovation sociale par le design. Alors déjà, quand je vous parle de design, il y a peut-être une petite précision à donner, parce que je ne sais pas quelle est votre connaissance du design, mais là, ce soir, je vais ni vous parler de la conception d'objets. Par exemple, la chaise, ça me semble être un élément assez classique quand on pense au design d'objets. Je ne vais pas vous parler d'aménagement, on ne va pas parler de ce que peut faire Valérie Damidot. Quand je parle de design, c'est vraiment une discipline du projet. Et peut-être que là, l'idée, c'est de se dire que dans le design, il y a les deux sens de dessin, EIN. Okay, donc le design, c'est une pratique de dessin, d'accord? De représentation, on va dire. Et il y a aussi le dessin qui finit par EIN, donc dans le sens de se projeter. Et c'est plutôt comme ça que j'entends le design, comme une discipline du projet, hein, comme l'architecture aussi l'a pu l'être. Il va y avoir des liens dans cette capacité de ces disciplines-là à se projeter. Donc j'ai ça en tête quand je parle de design. Donc c'est, vous voyez, l'idée de pas seulement parler d'esthétique, pas seulement de fonctionnalité, mais aussi d'utilité sociale de ces pratiques-là. Et donc, on voit comment il y a aujourd'hui, alors je vais en citer d'autres, hein, mais vous avez peut-être entendu parler du design thinking, de l'innovation collective, du design expérientiel. On voit aussi l'engouement récent par les living labs. Alors, on oublie hein, de les traduire, les laboratoires vivants. Qu'est-ce que ça veut dire un laboratoire vivant? En tout cas, il y a ces idées d'avoir des tiers-lieux qui se développent et qui amène à configurer de manière différente le fait qu'on va produire quelque chose et en même temps, c'est un moment où on peut aussi produire des connaissances. En tout cas, juste ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un engouement certain dans les laboratoires de recherche publics comme privés, dans les politiques publiques, dans les tiers-lieux, dans les villes, pour toutes ces approches avec une tendance au tout participatif qui est un peu prégnant dans l'esprit du temps ces dernières années. Alors bon, moi du coup, je vais vous parler de pratiques un peu particulières. Alors voilà, ça typiquement, c'est un schéma et puis une approche qui est assez connue pour tout ce qui est de l'ordre du co-design avec les travaux de Sanders et Stappers que je citais tout à l'heure. Mais finalement, l'idée, ce n'est pas tant de faire ce panorama, il permet quand même de montrer qu'il y a des différences et il y a des points communs. Les différences, je dirais que c'est dans la manière d'impliquer les usagers. C'est pas du tout pareil, par exemple, d'impliquer ce qu'on appelle les end users, donc simplement les consommateurs finaux, par exemple, d'un service, et d'avoir une approche de design plus participatif à la méthode scandinave, où on va impliquer toutes les parties prenantes en lien avec une partie du service, ce qu'on appelle les touch points, c'est-à-dire les points de contact entre les services et les usagers. Je vais donner un exemple. Vous travaillez sur vous voulez concevoir une appli qui permettra de gérer, alors là c'est trop un exemple en plus dans l'esprit du temps, hein, le fait que dans une entreprise il ne peut pas y avoir plus de 5 personnes en même temps, on va créer une appli rien que pour ça, et si vous voulez y aller sur votre lieu de travail, vous devrez le dire. Bon, mais je pense que pour concevoir une appli comme ça, il ne faut pas seulement aller voir les employés qui vont l'utiliser ou ceux qui vont le concevoir, mais il faut aller voir aussi ceux du service de la maintenance. Ils ont sûrement des choses intéressantes à nous dire sur la pérennité de ce type d'appli, par exemple. Voilà, c'est un exemple, vous voyez, entre partie prenante et end user, c'est pas la même chose. Le point commun, du coup, ça serait quoi? Ben, ça serait que, quand même, dans toutes ces approches, il y a l'idée de la participation en recherche et en conception, l'articulation aussi de savoir expérientiel, mais aussi de compétences professionnelles, ce que tu soulignais aussi tout à l'heure, Hélène. Ben, la co-construction de pas seulement d'un projet, mais aussi de connaissances dans des projets qui sont souvent à la croisée de la recherche et de la société. Et du coup, ça amène quand même les chercheurs et les designers à s'engager dans un processus de transformation sociale avec des participants dont finalement ils vont organiser la rencontre et équiper la conversation. C'est tout ce qu'on va voir là sur la question de la médiation par le design. Donc, vous voyez, il y a un lien aussi entre toutes ces approches dans la dimension processuelle de conception par itération, dans le fait de vouloir s'appuyer sur l'intelligence collective, de vouloir prototyper des idées pour les tester. Puis, il y a un autre élément aussi qui amène le succès, hein, notamment du design sur ces questions de la recherche participative, c'est que le design s'intéresse aux wicked problems, c'est-à-dire ces problèmes pernicieux. Hein, qui ont été soulevés par Rittel hein, en 73 ou encore par Buchanan dans les années 90, le fait de dire que par exemple le design thinking c'est une modalité de conception et de recherche qui peut embrasser la complexité des problèmes pour traiter ces problèmes transverses, ces problématiques transversales qui nécessitent d'avoir des visions systémiques et interdisciplinaires notamment. Donc c'est le cas dans mon travail où je vais articuler savoir et méthodes issues du design, de la communication et de l'anthropologie. Ensuite, moi je vous ai parlé d'innovation sociale par le design. Donc là aussi, hein, ça va être un rapide rappel parce que de toute façon, l'idée après c'est de vous présenter les projets, mais vous dire que l'innovation sociale par l'innovation sociale, c'est pas nouveau. Je dirais que c'est plutôt un renouveau dans les sciences humaines. Et puis on pourrait dire, ah ben tiens, c'est nouveau dans l'histoire du design, mais non, en fait, si on regarde les travaux de William Morris, Victor Papanek dans les années 70, les Arts and Crafts, bien avant, le Bauhaus, et puis plus récemment les travaux qui nous intéresse aussi, notamment pour la recherche projet, les travaux d'Alain Findéhi. Bon, ben, il y a toujours eu comme ça, à côté de l'histoire hégémonique du design industriel, des initiatives de designers qui ont rappelé l'utilité sociale, finalement, du design. C'est simplement qu'aujourd'hui, hein, il y a des séries de crises sociales, politiques, économiques, sanitaires qu'on est en train de traverser et qui réactivent finalement le fait que peut-être on est plus à l'écoute de ce genre d'approche qu'on l'était peut-être au XXe siècle avec une ère plus marquée par l'hégémonie du design industriel. Et puis aussi, ce que je trouvais intéressant à rappeler, c'est que pourquoi l'innovation sociale, ça c'est intéressant avec le design de service, parce que l'innovation sociale, finalement, et l'innovation et le service ont en commun de s'intéresser à la problématique des usages. Donc, finalement, l'idée, c'est de se distinguer d'une innovation seulement centrée sur la technologie et le projet, et le produit, pour rappeler qu'il y a d'autres formes d'innovation. Et c'est le cas, notamment, quand on parle d'innovation sociale à Project, on a bien sûr en tête les travaux de Laville, Klein et Moulaert, qui vont définir l'innovation sociale comme ce processus, hein, qui est une intervention initiée par des acteurs sociaux pour répondre à des besoins particuliers et transformer leur cadre d'action. Donc on voit bien qu'il y a véritablement dans cette approche une dimension sociopolitique par la reconnaissance du pouvoir de, pas seulement d'agir, c'est pas seulement agency, mais c'est aussi le pouvoir de concevoir des individus et des communautés. En disant, ben, en fait, vous, dès le départ, vous êtes impliqué dans la recherche des solutions qui soient les plus adaptées. Et du coup, c'est des choses que vous allez retrouver dans ce qu'on développe en particulier à Project. Vous voyez, ce qu'on appelle l'innovation sociale par le design, on peut dire qu'elle est basée sur ces 5 valeurs: observer, aller s'immerger. Hein. Alors, c'est intéressant comment la traduction du langage, du design et les sciences humaines en design social, on va parler d'immersion. Bon, en fait, par rapport à la recherche qualitative, ce sont des observations qui se font parfois sous phase comme ça, concentrée. Mais bon, l'immersion, s'immerger, c'est aussi toute l'ethnométhodologie, hein, qui nous rappelle qu'on va s'immerger dans le village pour en comprendre les codes, les langages, les rituels. On s'appuie bien sûr sur des méthodes participatives, une vision systémique, hein, avec l'idée qu'on va adopter une vision globale sur les problèmes à traiter de manière transversale, la pratique de l'idéation, de la concertation, l'expérimentation, notamment dans des ateliers, avec le fait d'avoir recours à du prototypage rapide pour tester. Et puis, finalement, ce qu'on développe aussi, c'est la recherche projet. Donc, qu'est-ce que c'est la recherche projet? Je le disais tout à l'heure, hein, c'est cette idée qu'on a une forme réactualisée de recherche-action qui vise à améliorer l'expérience des participants à la recherche, qu'on va considérer à la fois comme des experts de leur propre expérience, mais aussi les bénéficiaires du projet dans lequel ils sont impliqués dès le départ. La particularité, c'est que c'est une recherche de type actif, hein, c'est une recherche par le design, où on est situé et engagé dans le champ d'un projet. Et du coup, ça donne deux types de livrables. D'un côté, on va avoir des livrables classiques de recherche, hein, donc voilà, de la publication, des communications, là, comme je le fais. Et puis aussi, il y a des livrables par le projet. Hein. On va explorer avec les participants la co-conception de prototypes qu'on va tester. Et ça, ce sont aussi des données probantes de recherche. C'est une autre manière de produire de la recherche qui est porteuse d'innovation sociale à l'échelle d'un territoire, parce que bien souvent, c'est quand même des approches micro-sociologiques. Et c'est d'ailleurs toute la grande question du design social, comment est-ce qu'on peut le reproduire? Il n'y a pas cette reproductibilité qu'on peut avoir avec des méthodes de conception traditionnelles. Voilà. Et pourquoi innovation sociale par le design? Alors, à l'international, on parle facilement de design social, hein, social design. Nous, on a préféré innovation sociale par le design dans le sens que le développe aussi Manzini, parce qu'en France, il y a trop cette confusion sur le design social, c'est très réducteur, alors que l'innovation sociale, dans le sens de Manzini, hein, innovation sociale par le design, c'est tout ce qui peut activer et soutenir la transformation sociale. Donc, ce n'est pas que dans le champ du social, c'est la transformation sociétale, voilà. Ok, donc on va passer au projet, à la présentation des projets. Donc là, l'idée, c'est de montrer comment ces approches de co-design, de design participatif, on peut les mettre au service de l'intelligence collective dans la gestion des risques. Ok, on est à peu près à un quart d'heure là. J'essaie de gérer aussi le temps. Ça va, niveau
Ouais, très bien.
son, tout
C'est très
fonctionne
bien
bien.
de passer au projet, c'est chouette.
Voilà. J'imagine que vous aussi, qui avez peut-être été devant des écrans toute la journée, vous avez envie qu'on aille au sujet. Donc, la question des
Non, mais
risques.
la contextualisation était importante.
La question des risques, comment je vais la traiter? D'abord, il faut rappeler que c'est un axe central des recherches de notre école doctorale à l'université de Nîmes, qui s'appelle Risques et Sociétés. Donc l'idée, ça va être de travailler, comme je vous l'ai dit, sur les risques dans la santé et puis des risques plutôt naturels avec deux projets. Le premier qui est le projet SOMELS pour sommeil et santé. Et le deuxième qui est OPRIC pour l'Observatoire participatif du risque canicule. Et quand même, l'idée, c'est de rappeler qu'il y a des contextes scientifiques et interdisciplinaires différents, puisque le premier, c'est une recherche-projet sur l'insomnie chronique et la santé mobile que j'ai initiée à PROJEC dans un dialogue entre santé, design d'interaction, communication, anthropologie. Et je crois d'ailleurs qu'il y a Elisa Vrambel, doctorante actuellement sur le projet, qui est là aussi ce soir. Donc je la salue. Et le deuxième, OPRIC, en fait, c'est un projet de science participative sur lequel j'étais invitée à participer, puis aussi avec une autre collègue qui nous a rejoint dans le projet, qui est aussi à Project, Béatrice Disclard. Et là, c'est plutôt un projet de science participative où se rencontrent sécurité civile, design, communication, psychologie, géographie et anthropologie. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est des contextes interdisciplinaires et scientifiques très différents, mais en fonction de la thématique du projet. Et l'idée, c'est de voir que finalement, on a des temporalités différentes quand on parle de la question du risque, selon qu'on est avant en prévention, pendant la prise en charge et notamment la coordination en situation d'urgence, ou encore après le suivi notamment des impacts sur les territoires. Mais l'idée aussi, c'est de voir que ce qui est intéressant dans ces deux risques, c'est qu'on a à chaque fois des réalités complexes, une multiplicité d'acteurs, et finalement, ça présente en particulier des problèmes pernicieux, les fameux wicked problems, auxquels les approches de co-design peuvent apporter un autre regard que celui porté par les acteurs traditionnellement concernés, quoi. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer en n'ayant pas les limites, parce qu'aussi, il y aura une partie où j'espère que je vais y arriver. J'aimerais bien montrer aussi les limites que ça soulève et montrer que c'est pas non plus. On ne décide pas seulement de faire ces méthodes, en fait. Elles se pratiquent, elles s'expérimentent et elles demandent de l'adaptation et de la créativité méthodologique quasiment à chaque projet, quoi. Donc, je vous avais dit. Pourquoi la participation, avec quels acteurs? Donc moi, je pense vraiment que déjà dans mes projets, la question de la participation, elle se pose d'emblée parce qu'elle est liée à la problématique des usages et des usagers, quoi. Concevoir un projet pour et avec les usagers. Alors dans ce projet-là, le SOMELS, de qui je parle? Je parle des patients, des soignants, des citoyens, des associations de patients, des institutions publiques ou privées. Qui faire participer? Alors là, je dirais que pour moi, c'est vraiment une question centrale qui doit se poser au tout début d'un projet participatif. C'est l'idée de se dire, qui déjà on va faire participer et comment on va composer un groupe d'acteurs qui va porter des enjeux différents selon les besoins et la problématique du projet. En étant agile et ouvert, c'est-à-dire que ce comité, on peut le commencer, puis après, à d'autres moments, on peut se rendre compte qu'on a besoin d'autres experts particuliers. Alors là, quand je parle d'experts, ce n'est pas que les savoirs experts, mais un citoyen, il est expert de sa propre vie, par exemple. Donc, en fonction des différentes expertises dont on a besoin, ben, on va aller les chercher. Donc, ce comité, il peut s'agrandir, et petit à petit, il y a une communauté, pardon, qui se crée autour du projet. Et qu'on va venir activer en fonction de l'étape où on en est. Alors en particulier dans la santé, la question de la participation, elle se pose de manière particulière parce que dans la santé, la participation, elle est assez bien organisée, notamment par les comités des usagers dans les CHU. Mais en fait, il y a un problème avec ces types de comités. Alors, bien que les initiatives hein, de participatives soient bien faites, notamment par les institutions publiques comme les CHU, le problème, c'est que qui participe à ces comités? Ça soulève toujours la question des usagers silencieux, ceux qu'on ne voit jamais, qui ne participent jamais, parfois parce qu'ils ne sont même pas informés qu'ils peuvent y participer. Donc on a plutôt des usagers qui sont assez experts, souvent d'un capital socioculturel assez élevé, qui va de pair avec des engagements dans le milieu associatif. Donc c'est quand même un rapport à la participation assez biaisé par la manière dont il est approprié par les principaux participants. Et puis on a besoin d'autres formes de participation qui ne soient pas centrées que d'un côté sur les professionnels ou d'un côté sur les patients, mais qui permettent de mettre en lien ces deux types d'usagers dès la conception, et en particulier dans le champ du sommeil, des applis sommeil. Vous avez d'un côté des applis médicales et d'un côté des applis commerciales. Hein. Vous pouvez vous-même vous acheter, même avec votre téléphone, je suis sûre qu'il y a une appli sommeil sans avoir besoin d'acheter un Fitbit. Mais vous voyez, tout est très séquencé, très séparé, alors que là, l'idée, c'est de dire on doit faire participer ensemble. Et puis, du coup, quel est le besoin de recherche dans ce projet? On est parti d'un constat, donc avec ce projet qui a été élaboré à la base par deux somnologues, dont l'un est aussi médecin généraliste, puisque l'idée c'était de travailler sur la collaboration ville-hôpital. Et puis nous ont rejoint ensuite dans l'équipe, donc Pierre-Michel Richaud de l'École des Mines d'Alès, qui co-encadre la thèse d'Elisa Vrambel avec moi. Donc là, l'idée c'était quoi? C'est de dire, ben voilà, il y a. En gros, l'idée de se dire, les patients arrivent dans les consultations avec ces nouveaux objets, les Fitbit et tout, finalement, on ne peut pas interpréter ces données, puisqu'il n'y a même pas une unicité sur la captation des données, mais on voit bien qu'il y a une demande du côté des patients. D'un autre côté, les professionnels aussi utilisent des outils numériques, donc le projet, il est parti de là, en se disant qu'est-ce que la santé mobile pouvait apporter comme contribution sur la question de l'insomnie chronique? Alors même que ben, y a déjà beaucoup de choses en ligne, voilà, tout le monde a au moins été une fois sur Doctissimo. Et l'idée, c'est de dire, au lieu d'avoir des choses éparpillées, ben, on va faire se parler ensemble les gens. Et puis, on peut essayer de proposer, peut-être, de se lancer dans ce défi-là, de proposer quelque chose qui serait plus adapté à leurs contraintes, à leurs véritables besoins d'information, mais aussi à leur propre pratique des outils numériques, en tenant compte de la complexité du parcours de soins d'un insomniaque qui est chahuté entre la ville, l'hôpital, voilà, des choses qui ne sont pas très coordonnées. Faut savoir que plusieurs problèmes ont été identifiés au-delà du parcours de soins. Il y a aussi l'idée que, il faut se saisir pleinement de cette problématique de la santé mobile pour imaginer autre chose que des gadgets technologiques et qui ne trouvent pas de légitimité médicale, d'accord, mais en attendant, qui sont quand même utilisés par les consommateurs, qui ne sont pas patients, certes, mais il faut l'entendre. Et d'un autre côté, il faut développer des projets qui puissent permettre l'implication et l'autonomie des patients dans le suivi de leur pathologie. Donc ça a vraiment été le parti pris du projet, un triple parti pris de recherche et de conception à la base pour dire on va prioriser l'interopérabilité sociale sur l'innovation technologique. Donc l'idée en fait c'est de favoriser la mise en lien des acteurs sur un territoire de santé. On va mettre le numérique au service du bien commun. L'idée, c'était de développer des alternatives médicamenteuses, parce qu'en attendant, l'insomnie chronique, ça concerne quand même quasiment 30% de la population française, avec des délais d'attente très longs pour avoir des consultations dans des unités du sommeil spécialisées. C'était ça la demande du docteur Abril à la base, hein, désengorger le service de l'unité de sommeil, de consultations qui pourraient être prises en charge en amont. Et en attendant, le patient, il n'a pas de consultation, et pendant 8 mois, qu'est-ce qu'il fait? Il va se retrouver à un moment donné à prendre des médicaments. Voilà, donc on a déjà perdu 8 mois, alors qu'on aurait pu, parce que là l'idée c'est d'intégrer des alternatives non médicamenteuses, comme par exemple le suivi avec des TCC, des thérapies cognitivo-comportementales, on sait que ça marche très bien avec l'insomnie, et de l'intégrer dans un parcours de soins qui implique aussi toute une information et une incapacitation du patient sur sa propre pathologie avec des informations fiables et éprouvées, et en même temps une mise en lien entre les patients eux-mêmes, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui peut aussi les aider. Donc d'emblée, on a intégré trois niveaux d'éthique dont je vous reparlerai tout à l'heure. Donc chaque acteur a été impliqué dans le projet pour porter des enjeux spécifiques, médicaux, sociaux, éthiques, environnementaux. Et en même temps, chaque acteur devient aussi une personne ressource et une personne relais du projet au niveau local. Même chose du côté d'Opric. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire en quoi les sciences participatives basées sur le design social peuvent renouveler la réflexion et la conception de solutions liées au risque canicule. Donc là, le contexte du projet est différent. C'est le laboratoire d'ICEN du CNAM et en particulier Manuel Zaclad qui coordonnait le Work Package 5 dans un projet ANR justement qui s'appelle Implique sur les initiatives de population, les initiatives locales de population. Et on s'est retrouvé avec des intérêts de recherche en commun, puisque la problématique de l'innovation sociale, c'est quelque chose qui les intéresse aussi beaucoup. Et donc l'idée, c'était ça, c'était de voir. En plus, là, on était alors au départ sur le risque inondation, mais j'aurais pas assez de temps pour expliquer pourquoi finalement on s'est mis à travailler sur le risque canicule, mais c'est aussi l'enquête qui nous a amené à travailler là-dessus. Et puis le terrain du Gard, c'est avéré un premier terrain local pour commencer l'enquête, même si ensuite on envisage de le travailler. Ce risque naturel à une échelle plus nationale ou internationale. Et de toute façon, les enquêtes en ligne qu'on a faites nous ont ouvert là-dessus. Donc là, l'idée, vous voyez, c'est à la fois des chercheurs, Project, le CNAM, des designers. Il y a deux agences là. Il y a Étrange Ordinaire, il y a Commun IC, deux agences de design social. Il y a aussi des étudiants, designers et ingénieurs, hein, Manon et Pierre. Donc vous voyez un peu interdisciplinarité, interprofessionnalité. Et l'idée, là, c'est de travailler aussi avec le Fab Lab de Nîmes. Donc, à la base, implique, c'est un intérêt pour les initiatives développées par les citoyens. Et pourquoi on travaille sur ce risque naturel? Parce qu'en fait, il n'est pas associé ou représenté par une organisation qui lui est dédiée. Et d'ailleurs, les acteurs concernés, on a assez de difficultés à les impliquer. Alors, on sait qu'ils ont d'autres priorités en ce moment, mais c'est pour ça qu'on a fait évoluer nos stratégies de recherche et je vous ai mis le lien vers le site, mais nous avons développé un manifeste qu'on vous invite aussi à signer. L'idée, c'est de sensibiliser en fait les institutions et les partenaires institutionnels et essayer de les impliquer dans le projet, puisque finalement, il n'y a pas d'institutions particulières. Alors, on sait qu'il y a des plans canicules dans les CHU, on sait bien que du côté de la sécurité civile, ils s'y intéressent, mais bon, il n'y a pas de service canicule quelque part, quoi, à part peut-être le service environnement dans les villes qu'il y a peut-être. Alors que finalement, c'est un risque qui augmente en fréquence. En 2019, il y a eu 46 degrés dans le Gard, hein, record absolu selon Météo France, mais aussi en 2003, 15 000 morts en France, 70 000 en Europe. Dans le reste du monde, des vagues de forte chaleur. Vous avez vu les feux de forêt cet été au Pays Basque. Et puis aussi, on a vu ce que ça a donné, les sécheresses en Afrique, des feux de forêt en Californie. Bon, tout ça augure de conséquences quand même assez catastrophiques qu'il faut prendre en compte. Donc c'est un risque qui nécessite de développer de nouvelles approches permettant d'envisager les risques de manière transversale en coordonnant les acteurs concernés pour faire face à l'incertitude. Et précisément dans ce contexte-là de la COVID-19, l'anticipation du risque est cruciale. Et c'est pour ça que des approches en design, et notamment en design fiction, peuvent être intéressantes. Comment on a fait? Donc là, c'est plutôt la deuxième question. Quels outils, quels résultats? Pourquoi participer avec quels acteurs? Comme je vous disais, hein, c'est un enjeu qu'on prend en compte dès le départ. Et là, l'idée maintenant, c'est de voir plutôt comment on a fait comment on s'est appuyé sur ces différentes phases de recherche, des observations, des entretiens, des ateliers. Pour pouvoir développer ces deux projets. Donc peut-être, ouais, je vais y revenir. Là, l'idée, c'est vraiment de parler des résultats que ça a pu donner en présentant peut-être un dispositif particulier. C'est quoi la particularité de ces méthodes de co-design, de ces méthodes de design participatif? C'est qu'elles s'appuient sur des méthodes visuelles, créatives et narratives. Je pense que c'est ça vraiment les outils propres à la médiation par le design. Il faudrait pas croire là encore que, enfin, la médiation, il y a des experts de la médiation depuis longtemps. Donc c'est plutôt les designers qui s'approprient les outils de la médiation et qui vont la renouveler avec des outils qui sont propres à leur champ d'expertise. Donc là, peut-être un dispositif particulier sur lequel je pourrais m'attarder, ce sont les ateliers participatifs, puisque c'est vraiment le mode d'action privilégié du designer. Et si je devais le traduire par rapport à la recherche participative, je dirais que ce sont des focus groupes médiatisés. Voilà. Mais dont la médiatisation et les supports qu'on va mobiliser vont avoir un rôle central à la fois dans la collecte, à la fois des données, à la fois dans l'animation des discussions. Et ben ça va quand même avoir une incidence sur les résultats. Okay. Donc si on prend l'exemple des ateliers, donc là par exemple ce qu'on a fait avec le projet Summels, à quoi ça sert ces ateliers? Ben, ça sert à, de manière itérative, en fonction des avancées du projet, développer la conception du projet, mais aussi gérer tous les enjeux qu'on a peut-être identifiés. Au départ, les phases d'observation d'enquête, elles servent à identifier les asymétries dans les représentations, les enjeux qui sont peut-être difficiles à coordonner. Et donc ça, on va le préparer, on va préparer des ateliers en fonction de ça, puisque comme je le disais tout à l'heure, ces rencontres, elles sont forcées, ces rencontres, elles sont scénarisées. Les gens, ils ne se rencontreraient pas comme ça. Et donc on va essayer de faire en sorte que on va la favoriser. Donc tout l'intérêt, c'est d'animer la controverse dans la bienveillance. Et d'ailleurs, j'y reviendrai, bien loin d'une vision idéale de on met les gens autour de la table et ça se passe bien. Alors déjà en France, avec notre bonne vieille habitude à râler, c'est toujours comme ça. Au moins dans un atelier, il y a toujours au moins un participant qui va jouer ce rôle-là. Donc l'idée, ça va être plutôt hein, de comprendre les controverses, de comprendre les points de paradoxe et d'arriver à les régler, à les négocier. Ça veut dire qu'on n'aura pas 10 partout à tous les enjeux, mais on va arriver à un consensus collectivement négocié où les participants auront participé au choix de conception et aux négociations sur ce qu'il faut faire. Donc vous voyez, ça permet de faire tomber les barrières et d'amener aussi les acteurs à changer de posture en fonction de celle des autres, par empathie, comprendre les points de vue aussi des autres. Je vous disais quels outils, mais aussi quels résultats. Bon, ben, qu'est-ce qu'on a fait? L'idée, c'était pas que de concevoir de la santé mobile. Tout ce travail nous a permis de comprendre qu'en fait, si on veut s'intéresser à l'insomnie chronique et à la santé mobile, c'est pas juste faire une appli, un site web. Non, non, non. C'est faire à la base une solution systémique. Donc, on parle en communication de dispositif, hein, qui va englober à la fois un réseau d'acteurs. Et on ne parle pas que de professionnels de la santé, mais de professionnels du soin. Ça peut être aussi des art-thérapeutes, ça peut être, je ne sais pas moi, des naturopathes, voilà, qui vont aider en plus des psychologues qui sont eux des professionnels du soin et des médecins généralistes et des somnologues. Mais c'est aussi un protocole, parce qu'en fait, à quoi ça sert d'avoir une appli ou un agenda du sommeil si il n'est pas intégré dans un protocole de suivi et un parcours de soins? Et puis, c'est tous ces outils d'éducation thérapeutique, de communication, de prévention entre les professionnels de santé, les patients et entre les patients eux-mêmes. Donc, vous voyez, ça produit ce type de solution. Et c'est le fait de dire que tout ce qu'il y a autour, c'est important et ça joue un rôle central. Bon, ça, j'ai pas trop le temps d'en parler sur les dynamiques de l'éthique. C'est des hypothèses que je suis en train de préparer, mais peut-être on pourra revenir sur ça au moment des questions. L'idée, c'est de voir que du coup, la conception, on l'envisage pas que de manière dans la fonctionnalité, mais on envisage aussi les dimensions émotionnelles, socio-affectives, et que du coup, c'est une approche de conception centrée sur la singularité des individus plutôt que sur l'automatisation de solutions techniques. Mais on verra peut-être au moment des questions. Qu'est-ce que ça a donné au niveau des outils? Parce que je vois qu'il est 48 et ça serait bien que dans à peu près 5 minutes, j'arrête, quoi.
Tout à fait.
J'espère d'ailleurs que c'est pas trop long pour vous, ni trop rapide. Qu'est-ce qu'on a fait avec Opric? Bon, avec Opric, on a fait autre chose. D'ailleurs, je pense que c'est utile de montrer ce schéma d'abord. Peut-être faut un peu expliquer le contexte. Tout ce dispositif que je vous présente là, où on a orchestré un travail de recherche participative avec une participation en ligne, mélangée avec des ateliers en présentiel, mélangée avec de la vidéo, tout ça, c'est quand même parce qu'on a été confronté au contexte de la COVID. Donc, comme toutes les méthodes de recherche qui sont basées sur la rencontre en face à face, l'empathie du direct, nous avons, comme tous qui pratiquent ces méthodes, dû les adapter. Donc, au début, comme vous le voyez là en haut à gauche, on avait bien hein, Clément qu'on voit en haut à gauche, et puis Manon, faire des phases préliminaires d'enquête dans le Gard. Donc là, vous voyez les endroits de prédilection au marché, dans la ville et tout et tout. Hop, ça s'est arrêté. Du coup, ils ont basculé sur. Donc, on voit Manon et Pierre là avec une habitante. Donc, là, des entretiens en visio. Puis en fait, après, on s'est dit bon, ben, c'est comme ça. Faisons de cette contrainte une contrainte créative. Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Et vu qu'on était tous plus ou moins liés, bon, avec notamment Béatrice Visclard, Manuel Zaclade, à des dispositifs comme ça de recherche participative basés aussi sur. D'autres modalités. On a pu suivre aussi pendant le confinement, il y a eu plein d'initiatives faites par des chercheurs ou des citoyens, vous avez peut-être pu voir ça, où on a découvert d'autres manières de collecter des données. Bon, là, je parle de ce compte-là, Pesquisa Objetos de Quarentena, c'est une recherche du laboratoire brésilien Le Lembrar sur la mémoire et les représentations à Rio de Janeiro. C'est une recherche participative avec des citoyens sur les objets du quotidien en temps de confinement. Bon, ben voilà, c'est génial de mobiliser la photo pour documenter, voilà, c'est quoi vivre le confinement. Mais il n'y a pas que des initiatives de chercheurs, il y a aussi ce compte Tumblr-là, où c'était, ben voilà, raconte-moi ton histoire du confinement, quoi. Et on peut voir comment tout ça, ça peut nous inspirer, c'est ce qu'on a fait. En fait, au départ, nous, on s'est dit, OK, ben alors on n'a qu'à créer un groupe Facebook. Et peut-être qu'on va créer une communauté. Donc, qu'est-ce qu'on a fait sur ce groupe Facebook? On a commencé à publier des tips et astuces sur comment on peut se prémunir de la chaleur et tout. Puis là, finalement, ça a commencé au-delà d'un public gardois à intéresser d'autres personnes. Et puis, on s'est dit, bah, tiens, allez, on va lancer des défis photos. Et en même temps, c'était parce que nous aussi, on ne pouvait plus y aller sur le terrain. Or, il y avait une problématique importante avec ce sujet, c'est. Comment on le rend visible, le risque canicule? C'est quoi la canicule en fait? Et là, on a voulu adopter ce dispositif-là pour se dire, ben, au lieu de nous seulement produire des images et tout dans nos observations, on va demander aux gens de nous dire, c'est quoi la canicule pour vous? Et on avait trois axes, les impacts de la canicule sur nous, sur les autres et sur l'environnement. Et donc, en gros, après avoir constitué une petite communauté comme ça sur le groupe Facebook, où on était, je crois, à 61 membres quand on a lancé les défis photos, on a lancé un défi photo pendant un mois, où ben, on lançait, donc, après, je vous invite à aller regarder sur le groupe, mais souvent, c'était un de nous, les chercheurs, on lançait un défi photo en disant, bon, par exemple, moi, j'en avais fait un sur moi-même, qu'est-ce que ça fait? Et j'avais essayé de rendre visible le principe de la sudation. Donc j'avais pris une photo avec ma fille, on se mettait ce qu'on fait tous sur la main, des sprays de l'eau, ou voilà, quand il fait chaud, ben on se met de l'eau. Et en même temps, c'était une manière de rendre visible la sudation. Bon, il y a plein de postes qui ont été proposés par nous-mêmes, il faut le dire, mais aussi par des contributeurs, soit locaux, soit après, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Qui n'étaient pas forcément ici dans le Gard. Ils ont posté sur quoi? Sur les liens entre la canicule et le Covid, les effets sur les animaux. On a eu des photos de chats, de chiens, de cheval, les canicules et les végétaux, la canicule et le corps humain, les impacts sur l'aménagement du territoire. On a eu des images de bâtiments qui s'effritent parce qu'à cause de la chaleur, d'incendies. Ben voilà, feu, ma belle forêt du Pays Basque, Chiberta, s'est enflammée cet été. L'effondrement des glaciers suisses, on a eu des contributions comme ça. Et puis aussi, comment on s'adapte tous à l'environnement. Donc, il y avait des gens qui montraient des astuces de comment on ferme les volets, comment on met sur nos vitres, je crois qu'il y est là. Et en fait, ce qu'on a voulu faire, alors ça, c'était En discutant avec Clément Bonnet, on voulait essayer de faire comprendre, parce que pour nous, la recherche participative et les sciences participatives, c'est aussi rendre accessible aux participants les données qu'on collecte au fur et à mesure. Donc, on a créé un site et il y a une page où ça s'appelle Mémoire de canicule. Donc, ben, ça fait un mur multimédia et l'idée, c'était que les gens, quand ils vont sur cette page, ils aient la même sensation que ce que c'est un chercheur. Un chercheur, il est comme ça, il est confronté à une quantité de données, des photos, des témoignages, comme là, cette expression-là, t'es pas un peu calu, qui vient d'ici. Il peut y avoir des entretiens audio, il peut y avoir de la photo, de la vidéo, et on voulait montrer ça. C'est ça, le chercheur, c'est être confronté à une masse de données qu'on collecte un peu avec nos différentes initiatives créatives. Et après, il faut bien les analyser avec des grilles qui n'existent pas au préalable et qu'on doit concevoir. Et c'était une manière aussi de rendre accessibles aux participants les données auxquelles ils avaient eux-mêmes contribué. Ok, je m'arrête là. Je voulais quand même, c'était pour finir le petit suspense de pourquoi cette image-là, qui était aussi dans l'annonce. On a fait un atelier, je voulais plutôt vous parler du design fiction dans une des activités. Donc voilà, il y avait aussi plein de choses. Hein. Les ateliers en temps de Covid, c'est de nouvelles sociabilités masquées. Donc c'était aussi une expérience assez particulière. En tout cas, sur les quatre activités proposées, je voulais vous parler d'une activité en particulière. C'était sur le design fiction. Ça permettait d'anticiper une situation de crise. Et ce qu'on proposait, c'était ce casque de voyage prospectif. Donc je vous le dis pour livrer le suspense de ce dispositif. Il n'y a rien dans ce casque, hein, en fait. Vous le mettez, c'est noir. Simplement, tout est basé sur les quatre rôles qui sont proposés. Il y a un voyageur, donc c'est celui qui porte le casque, là, que vous voyez les mains un peu levées. Il y a un chaman, donc c'est celui qui va guider le voyageur. En gros, si on comparait ça à des séances d'hypnose, il va créer l'induction, quoi. Il va lui raconter quelque chose qui va le projeter dans un scénario futuriste. Et au bout de 5 minutes de blabla, il va lui dire, c'est à toi, qu'est-ce que vous faites avec votre groupe d'activistes? Okay? Ensuite, il y a un scribe, donc c'est un autre participant qui prend des notes, on a prévu des supports adéquats où il peut remplir. Et puis, il y a un journaliste, donc c'est un journaliste du futur, en fait, qui questionne, en fait, on avait fait des scénarios au préalable, hein. Il y en avait, c'était un groupe d'activistes qui travaille avec des makers sur des textiles connectés pour la chaleur et tout, et après, il devait imaginer. Et donc, ce journaliste, il va lui poser des questions et ça va aider le participant s'il ne sait plus trop raconter. Ben, le journaliste, il va dire, ah ouais, et c'est comment dans ton monde et comment vous faites ça? Comment vous avez réussi à trouver des soutiens de la population? Balali, balala. Ça, c'est intéressant parce qu'on a un dispositif ludique, prospectif, particulièrement adapté à la question du risque, qui demande de se projeter pour anticiper. Et là, le design fiction, ça devient intéressant pour imaginer des alternatives à l'existant. Seulement, il y a certaines limites, par exemple. Avec des participants qui vont se discréditer d'emblée. Je vous donne un exemple. Deuxième tour de groupe qui passe. Et une dame, avant même de mettre le casque, elle comprend ce que c'est l'activité et elle dit à voix haute, oh, ah mais moi je suis pas du tout créative, je vais pas y arriver en fait. Et en fait, ces réticences, il faut les entendre aussi. C'est un participant qui dit qu'il pense qu'il n'a pas la compétence. Alors là, c'est aussi au rôle du chaman de le mettre à l'aise. C'est pour ça que le chaman, il est souvent aidé par les designers ou les chercheurs à côté pour voilà, essayer de relancer un peu les scénarios. On les avait en tête, nous, parce que c'est des questions qu'on a envie de traiter. Mais il faut savoir que ce n'est pas des dispositifs ludiques comme ça. Les participants, parfois, ils sont un peu surpris aussi. Et par contre, quand ça marche, c'est génial parce qu'ils se prêtent au jeu et ils envisagent tout ça ensemble. Je terminerai par les limites et les apports du design participatif. Bah, les limites, c'est quoi? Elles sont propres à toutes les méthodes participatives, hein. Bah, faire participer, c'est toujours une difficulté. Comment faire participer les usagers silencieux? Même quand on est astucieux et qu'on a des leviers par la communication, notamment pour aller les mobiliser. Mais c'est aussi comment maintenir la participation, hein? Je vous parle de projet, par exemple, le projet Sommel, c'est 3 ans. On sait bien que c'est des temporalités très différentes, donc comment on maintient la participation? Et puis en temps de Covid, je vous le disais, hein, comment on peut faire ces méthodes-là quand ben voilà, on ne peut pas se rencontrer en face à face. Les apports, c'est quoi? Ben, c'est des solutions adoptées et parce qu'elles sont adaptées. Une meilleure appropriation par les usagers des connexions, des apprentissages, la prise en compte des émotions, des affects. Et donc, en quoi ça permet de produire de nouvelles formes de connaissances? Ben parce que c'est des connaissances qui sont incarnées dans les trajectoires de vie des participants. Ce sont des connaissances qui sont diffusées par ceux et celles qui y ont contribué dans la sphère sociale et culturelle. Et il y a aussi un apport, je pense, au niveau de la valorisation de la recherche. Puisque c'est de nouveaux outils de médiation, quelque part. Voilà, je m'arrête là-dessus. Là, on pourra aussi parler de ça peut-être au moment des questions, mais il y a vraiment tout un travail à faire autour des liens entre risque, design et incertitude. Et les travaux de la GADEC, il me semble qu'il y a un spécialiste du risque, hein, ouvre aussi au fait que dans la question du risque, il faut qu'on ait ces approches plus agiles, plus créatives, et sans en faire une injonction à la créativité, par contre, hein, mais qui nous permettent d'accepter de vivre avec l'incertitude. Voilà, je vous remercie et j'ai bien hâte
Merci.
d'écouter vos questions. Donc, je vais arrêter le partage d'écran.
Merci beaucoup à vous pour cette présentation très claire et accessible, même pour des novices du co-design et de la recherche participative. Je vais me lancer en posant deux, trois questions parce qu'il n'y a pas encore eu de questions dans le chat ou de main levée, mais voilà, n'hésitez pas, les participants, participantes, à vous manifester et poser vos questions. Moi, il y a plusieurs éléments qui me sont venus. C'est d'abord, au départ, vous avez parlé un petit peu des livrables. Moi, je me demandais un peu quid de la reconnaissance des livrables non académiques par vos pairs, en fait, en tant qu'enseignante-chercheuse. Voilà, je ne sais pas comment ça se passe en infocom, mais dans certaines autres disciplines, ça peut être assez compliqué de faire reconnaître les livrables de ce type de recherche, surtout des livrables non académiques. Donc, comment vous faites? Parce qu'il faut aussi avoir le temps de livrer des livrables académiques à côté, etc. Et puis une autre question parmi d'autres, c'est qu'est-ce que ça apporte finalement aux designers en fait de travailler avec vous universitaires? Parce qu'on a très bien compris ce que ça vous apportait à vous, bien compris aussi ce que ça apportait voilà à la discipline de travailler aussi ce que ça peut apporter aux usagers, aux participants. Mais moi j'ai un petit peu peut-être moins saisi alors du coup peut-être par des échos que vous avez pu avoir de designers, designeuses avec qui vous avez pu travailler, mais eux, en tant que professionnels, qu'est-ce que ça leur apporte alors qu'eux, ils ont déjà peut-être ce type de pratique en agence? Et voilà, qu'est-ce que ça leur apporte d'avoir un niveau de conceptualisation de plus et d'avoir votre regard à vous? Qu'est-ce qu'ils en disent de ces expériences-là?
Merci Hélène pour les questions. Ce sont des questions, je pense, fondamentales qu'on se pose tous quand on expérimente ces pratiques de recherche. Alors, premièrement, les livrables, la reconnaissance des livrables. D'abord, j'ai envie de dire que du coup, ça amène à dire qu'il faut de nouvelles compétences pour les chercheurs aussi. Et donc ça demande du temps, c'est vrai. Bon, c'est vrai que moi, dans ma pratique, ça s'explique par le fait que même, voilà, le point commun entre la communication et le design, c'est que ça articule toujours une pratique, une dimension de pratique et de recherche, quoi. Même avant, je faisais déjà, des documentaires de création où, je pratiquais, mettons, l'esthétique intermédiaire et je m'en servais pour essayer de montrer que, je sais pas, sur la représentation de la diaspora tzigane, par exemple, c'était le sujet de mon documentaire, c'était la meilleure manière de transmettre du sens. Donc, cette question, elle se pose moins quand on a déjà un rapport à la pratique. Par contre, sur la légitimité, elle est la même, parce qu'on est d'accord que dans l'académie, les livrables, ce sont les publis, les thèses, et j'y répondrai en deux temps. Déjà, on a un peu avancé. C'est une question qui m'avait beaucoup intéressée déjà en 2009, quand il y avait un gros congrès sur les méthodes visuelles donc à Bruxelles. Et l'idée, c'était de dire comment on pourrait le faire reconnaître. Ça existe en France. À l'université d'Évry, notamment avec Joyce Sebag, il y a la thèse film. Donc, c'est des gens qui sont en sociologie visuelle. Ils viennent plutôt de la sociologie du travail à la base, mais il y a déjà une initiative et ça existe dans l'institution universitaire française qu'ils livrent une thèse et un film. Et le film est un livrable en recherche. Après, dans la vie quotidienne des chercheurs, même nous, hein, en design et en communication, Eh ben, bien sûr qu'il faut lutter pour qu'ils soient reconnus ces livrables, et notamment, c'est aussi des choses sur lesquelles on travaille à Project, comment on peut faire reconnaître ces livrables-là. Mais après, je dirais qu'il y a deux types de reconnaissance, quoi. Il y a la reconnaissance académique, bon, on sait qu'il faut publier, voilà, et c'est de plus en plus, gna. Et puis, d'un autre côté, ces livrables, en fait, ils permettent autre chose. Ils permettent aussi, par exemple, faire. C'est dur, oui, de se dire qu'on va faire un petit webdoc sur un projet de recherche participative en train d'être fait. Mais par contre, pour le lien avec les participants et les institutions, c'est super. C'est un autre moyen d'expliquer une méthode, par exemple, que de donner un rapport de 20 pages. Là, pour le coup, les citoyens, ils ne vont pas le lire. C'est pas vrai. Si, peut-être, ils vont le lire. Mais en tout cas, c'est. Voilà, utiliser un autre outil. Après. Donc voilà, sur la question des livrables et de leur reconnaissance. Alors, quel est l'intérêt pour les designers de s'intéresser à bah, toute la rigueur finalement qu'il peut y avoir avec les méthodologies de la recherche en sciences humaines? Mais moi, je dirais que c'est ce qu'ils viennent chercher en fait. Typiquement, vous voyez, on a à l'université de Nîmes un master qui s'appelle le Master Design et Innovation Sociale. Typiquement, ce sont des étudiants qui ont déjà des profils de designer, mais qui s'intéressent aussi dans ce master à la manière dont on va mobiliser les sciences humaines et sociales pour faire ce type d'approche de co-design. Donc je dirais que l'échange, il est dans les deux sens. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, j'ai passé un peu dessus, mais c'est ce que dit Alain Findelli, la recherche-projet, c'est quoi? C'est OK, il y a des livrables qui passent par le projet. Le projet, c'est une manière de produire des données probantes de recherche, sauf qu'on va puiser dans la rigueur méthodologique des sciences humaines et sociales, donc dans la théorisation ancrée, dans la recherche participative, la recherche action. Et ça, il vient chercher à être outillé, et puis, comme tu le disais, à pouvoir conceptualiser, avoir une vision systémique. Voilà. Donc, je dirais que c'est ça l'intérêt, et voire même du coup. Certes, du coup, quand ils ont ces compétences, ils se présentent aussi comme designer-chercheur, ce qui n'est pas forcément l'identité professionnelle de quelqu'un qui pratique pas ce type de méthode-là. Donc, il y a ces deux enrichissements, moi, je dirais, mutuels entre la recherche et le design. Et c'est ce que j'essayais de montrer dans mon petit schéma à la fin, là, parce que c'est des questions aussi qui m'animent.
Tout à fait. Ouais, et puis ça rejoint voilà, des choses qu'on aborde souvent dans ce séminaire. On a une question de Georges dans la conversation. Quel suivi à moyen et long terme avez-vous mis en place et est-ce que vous avez déjà des résultats sur ces deux projets?
Oui.
C'est vrai que la question du
Alors.
suivi et de la valorisation suite aux multiples projets est aussi assez centrale et importante.
Oui. Alors, je dirais que plus avancé pour le projet Sommels que pour Opric, parce que Sommels, on entame la deuxième. On a entamé déjà depuis un an avec Elisa Vrambel la deuxième phase de la recherche projet. Donc, on a déjà eu des résultats de la première phase. Et alors qu'avec Opric, on n'en est qu'à un an de projet là. Donc pour les résultats, donc l'idée c'est qu'on a commencé. Alors le projet Sommels, il y a énormément de choses à faire puisque l'idée c'est pas que de faire de la santé mobile. À terme, on veut aussi que ce soit reconnu et intégré comme un parcours de soins remboursé par la sécurité sociale. Donc vous imaginez, on va souvent, quand je parle de ça avec certains professionnels de santé, ils lèvent les yeux au ciel en disant bah, bon courage, oui, mais c'est l'idée pour aller jusqu'à l'éthique du projet. Bon. Donc, du coup, les premiers livrables qu'on a eus, par exemple, parce qu'il a fallu aussi trouver des financements, puisque en fait, ça, c'est une recherche originale. Hein, c'est pas on a eu un appel à projet, c'est à un moment donné, je vous ai dit, cette rencontre entre des professionnels de santé et des chercheurs. Donc là, le premier livrable, pour qu'aussi on arrive à trouver des financements, ça a été de délivrer une maquette de l'application, qui est l'agenda du sommeil, avec une maquette de la plateforme côté professionnel de santé. Et dans le cadre de la première année de thèse d'Elisa Vrambel, elle a accompagné aussi le passage de la maquette à un premier prototype. Donc là, c'est là qu'on voit bien l'interdisciplinarité entre le design et l'ingénierie, hein, puisque nous, on travaille vraiment avec ces deux disciplines de la conception. Donc il y a ces premiers livrables-là. Et alors après, comment on le fait? Ben, voilà, c'est ça que je trouve. On a beau avoir des désirs de faire de la recherche pour la société, ben moi, typiquement, je suis chercheur, hein, je ne suis pas une start-upeuse. Donc, quand je fais ça, je suis accompagnée, par exemple, par des dispositifs, comme la SAT. donc qui sont des services d'accélération de transfert technologique et qui sont finalement de nouveaux médiateurs. Oui, parce que la finalité, c'est d'aider les chercheurs à transformer les connaissances qui ont un potentiel transfert technologique, donc qui.
Du coup, ça, c'est un service de l'université de Nîmes.
Non, c'est un service qu'il y a dans chaque région. Et donc, typiquement, pour cette recherche comme pour l'autre, c'est aussi des dispositifs qui permettent d'accompagner les chercheurs pour, bah, par exemple, travailler sur la coordination avec les entreprises qui vont développer le projet avec nous. Voilà. Sachant que ce travail, on l'a aussi anticipé dès le départ. Il y a deux entreprises donc de e-santé qui nous intéressent, en particulier parce que ben, il y en a une qui travaille notamment sur le low-tech. Et bon, nous, on voudrait travailler sur un dispositif, le bracelet connecté, qui soit loué, hein, parce que c'est pour travailler aussi avec des structures publiques. Donc, il faut que c'est une grande autonomie de batterie. Donc déjà, on élimine les Fitbit et qui sont. Voilà, il y a des écrans, il n'y a pas d'écran sur l'objet. Et puis on voulait aussi des API ouvertes, ce qui n'est pas le cas de tout ce qui est américain. Donc là, vous voyez. Et précisément répondre à votre question sur quel est le suivi, typiquement pour nous, l'idée, ce n'est pas de déléguer ensuite à une entreprise qui va le faire. Si on fait ça. Ben, on ne sort pas des méthodes de gestion de projet traditionnelles, hein, où il peut y avoir de la recherche en amont, puis après, c'est une entreprise qui développe toute seule. Donc l'idée, et c'était aussi de voir comment on peut le faire dans le cadre de la thèse, là, qui est en cours, mais c'est aussi ça, une temporalité qui est plutôt sur le long terme, mais d'accompagner avec la recherche, que la recherche accompagne aussi l'implémentation du projet sur le territoire, quoi. Parce que pour nous, ça veut dire de nouveaux tests d'usage. Voilà, la recherche, elle ne s'arrête pas là, bien au contraire, et c'est tout l'intérêt, quoi.
Ok, merci. On a une autre question de Thomas qui nous demande en quoi les démarches de conception participative changent le regard et la représentation des participants, entre guillemets, sur le rôle de la recherche et des chercheurs. Ça, c'est quelque chose qu'on se pose beaucoup à la boutique des sciences aussi, qu'on espère être un de nos impacts. Voilà, c'est changer le regard sur la recherche et les chercheurs. Est-ce que vous avez constaté des choses par rapport à ça dans vos projets?
Oui, je pense que c'est une question. Donc merci mon cher collègue Thomas pour cette question. C'est aussi, j'aimerais bien t'entendre aussi là-dessus Thomas parce que c'est des questions qu'on discute ensemble. Alors je dirais d'abord c'est le fait de pas scinder la posture d'intellectuel avec celle de citoyen. Je pense que trop souvent, on considère ça, quoi, que finalement, vous avez bien vu avec le cheminement que je vous ai montré, là, quand je vous ai parlé de mes ateliers d'éducation citoyenne et participative aux médias, même au début, je n'étais même pas encore chercheur que ça m'intéressait déjà, quoi. Donc, je dirais ça permet de ce premier changement de regard. Il n'y a pas d'un côté l'intellectuel et de l'autre le citoyen. Et puis après, ça permet aussi de changer le regard sur des participants sur une recherche qui serait trop hors sol. Où on est dans nos labos là enfermés, mais qui montre que ben, ça vient aussi de nos initiatives, hein, d'aller faire de la recherche avec les citoyens. Et c'est d'ailleurs hyper intéressant que Thomas pose cette question parce qu'on a des réflexions. Alors ça prendra donc avec Thomas Watkin, on a des idées de faire un colloque là-dessus ou de voir ce que ça peut donner, mais de voir comment finalement ça questionne aussi les lieux de la recherche. Et qu'est-ce qui se passe si la recherche, elle est hors les murs, dans ces tiers-lieux, dans ces. Donc je dirais que ça change ça aussi. On peut faire de la recherche dans d'autres lieux. Et puis ce rapport, voilà, l'engagement, pas seulement dans des idées, mais l'engagement dans un projet avec des acteurs pour transformer un territoire. Voilà. Et ça fait sens aussi pour nous.
Oui, bien sûr, ça redonne aussi du sens au travail du chercheur qui parfois est un petit peu perdu là-dessus. On a une question de Cécile qui nous demande, donc vous avez parlé des utilisateurs invisibles qui sont importants à atteindre. Comment vous y êtes pris, par exemple, sur le projet Sommeil pour essayer justement d'atteindre ces utilisateurs invisibles? Et du coup, c'est vrai que ça rejoint une question qu'on se pose beaucoup en recherche participative, qui est, ben, voilà, que vous avez posée aussi au début, c'est qui participe en fait? Et est-ce que c'est pas un peu tout le temps les mêmes citoyens impliqués par ailleurs qui participent aussi à ces projets-là, et du coup, c'est pas encore la vie de tout le temps des mêmes qu'on retrouve, quoi.
Oui. Merci Cécile Rondeau pour cette question. Alors l'idée là, c'est vraiment de dire que autant, alors moi venant de la communication, parce que moi ça d'emblée m'évoque la question des cultural studies, des études culturelles. En communication, on a développé des approches intersectorielles pour travailler sur triple minorité quoi, de classe, de genre et d'ethnie. Et j'ai l'impression que dans les approches un peu contemporaines de la participation et parfois même dans le co-design, on les découvre. Et je dis ça sur des faits, hein, dernier congrès de la DRS, Design Research Society, Why Design is So White. Ok, bon ben déjà, les frais d'inscription dans ce genre de congrès, c'est plus de 700 euros. Comment vous voulez que des collègues qui sont en Amérique latine ou en Afrique du Nord viennent? Déjà, c'est que nos pratiques, en fait, le sont. Donc, comment on fait? Moi, je dirais que dans le cas, par exemple, du sommeil, ce qui a servi de levier, même dans le cas aussi de l'autre projet hein, sur la canicule, ce sont les observations participantes, les micro-trottoirs, toutes nos techniques comme ça qu'on développe sans forcément formaliser. Des entretiens avec des rendez-vous particuliers qui, par capillarité aussi, nous permettent d'accéder à d'autres types de participants qu'on n'aurait pas eu sans ce qu'on peut appeler des personnes ressources, des personnes relais. Aussi, l'idée, ça a été typiquement, on ne sait pas ce que ça vient faire le design et les sciences humaines dans la santé. Donc aussi pour les patients, quoi. Donc faire des observations de consultation. Moi, ça m'a beaucoup aidé aussi pour me faire accepter de la communauté aussi, et que ils comprennent bien que quand j'observe ces consultations, bon, moi en fait, je comprends pas, je vais pas parler sur la pathologie du sommeil. Moi, je vais plutôt parler sur les outils de communication, comment ils s'informent. Donc, ça nous a permis aussi d'accéder, voilà, de manière plus large aux participants. Et après, je pense, alors là, j'ai d'autres exemples en tête, mais pas dans le champ des projets que j'ai menés, mais dans le champ de la médiation culturelle. Un projet qui avait été développé à Montréal, l'idée c'était de vous venez pas au musée, le musée vient à vous, quoi. Donc on fait une exposition itinérante qui est en même temps dans un quartier le moyen de faire des ateliers et donc de collecter des données. Donc ça, on a pu le faire par exemple quand. Trop de difficultés à mobiliser des médecins généralistes pour faire un atelier. Nos ateliers, c'est quand même 3 heures. Hein. C'est pas possible. En plus, on les paye pas, alors que ça se fait quand même dans les recherches de laboratoire et tout. Ils sont payés, les gens. Donc, vous voyez, c'est vraiment de la participation volontaire. Et donc là, ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un peu ça. Vous pouvez pas venir, on vient à vous. On s'est inspiré de ce que font les VRP là, quand ils vont dans les cabinets de généralistes pour vendre des trucs. On est venu à midi avec à manger, donc c'était l'atelier mobile en mode design food là. Et on leur a dit, vous avez une demi-heure. Eh ben ok, on va vous faire deux activités. On vous présente la maquette, on vous présente et voilà. Et on avait du coup et comme cette maquette, on l'avait co-conçue avec eux en amont, en les faisant participer au choix de co-conception, c'était aussi d'aller au bout. Et de les faire participer. Donc, ça peut être aussi des moyens, quoi. On vient à eux et on fait des contraintes, là encore, des contraintes créatives. Mais je
Mais ça veut
m'arrête là
dire
parce que je vois qu'il y a d'autres questions.
voilà. Ça veut dire s'adapter quand même beaucoup aux contraintes aussi des personnes avec qui vous travaillez. Enfin, c'est vrai que c'est un paramètre important aussi en recherche participative, c'est de connaître les contraintes des autres pour voilà, pas les solliciter de façon complètement absurde pour leurs propres contraintes. Une question de Georges. Vos travaux investissent et exploitent les ressources immatérielles. Capitalisme de l'immatériel, économie squaternaire, avez-vous pu construire une forme d'économétrie des aspects de production immatérielle?
Alors, justement, c'est quelque chose. Alors, je pense si je comprends bien la question, hein, mais c'est quelque chose que j'ai essayé dont on parlait tout récemment avec Elisa Van Bell, donc la doctorante sur le projet Sommels. Ce que je trouve intéressant, alors pour répondre à la question, est-ce qu'on a pu construire une forme d'économétrie? Des aspects de production immatérielle. Je ne l'ai pas mesuré avec des indicateurs et voilà, des choses comme ça. Mais par contre, c'est des choses qui m'intéressent vraiment à observer dans justement l'économie et l'écologie de la partie de la participation qu'il y a dans ce projet-là. Justement parce que l'engagement, il est basé sur l'engagement de tous, mais aussi il est basé sur un engagement qui s'appuie sur des valeurs communes, par exemple, qui s'appuie sur faire ces ateliers. Ça a aussi été le moyen de créer une communauté de patients. Alors là, pour l'instant, on n'est pas passé à l'acte, parce que quand même, créer une association d'insomniaques, c'est aussi un peu sortir du placard, hein, c'est dire je vais être dans le bureau et tout. Et il faut savoir que donc on travaille hein, en étroite collaboration avec France Insomnie. Et d'ailleurs, il y a une antenne France Insomnie à Lyon, j'ai suivi ça. Et l'idée, c'était de faire Occitanie Insomnie en dialogue avec France Insomnie. Et donc, la communauté, elle est là, hein, on a une communauté de patients. Voilà, peut-être qu'il y en a hein, ce soir qui sont là et je les salue s'ils sont là. Mais en tout cas, les patients sont là, mais après. Donc je dirais que ça, par exemple, c'est une ressource immatérielle, mais je sais que les participants à la recherche, et notamment les patients, c'est quelque chose une production très concrète pour eux. Maintenant, ils connaissent aussi d'autres personnes, et on a imaginé que cette association, ça serait le moyen de partager justement, par exemple, faire de la marche, aller faire des séances de yoga ensemble à l'intérieur de cette espèce d'institut qui serait autour de l'insomnie. Donc je ne sais pas si ça répond à la question.
Bon, si ça répond pas, Georges pourra nous repréciser ça dans les commentaires. Je vais me faire l'écho de la question de Marie-France et puis je pense qu'on clora, à moins que voilà, s'il y a une dernière question, la poser maintenant, histoire qu'on finisse à peu près vers 19h30. Marie-France demande donc, est-ce que les acteurs de la médiation scientifique, centre de CSTI, donc culture scientifique et technique, association locale, collaborent avec vous sur ces projets et de quelle manière? C'est vrai que vous avez beaucoup parlé, voilà, de vous chercheurs, des designers et puis des usagers, mais est-ce qu'il y a quelqu'un ou des dispositifs pour vous mettre en lien et faire aussi tout le travail de médiation qui peut aider dans ce genre de projet? Et du coup, si vous êtes seul, comment vous gérez aussi ces questions-là de potentielles problématiques qu'il peut y avoir?
Pour articuler donc notamment les acteurs selon les différentes disciplines, c'est ça? Pour articuler, pour justement. Ok. Il n'y
Oui,
a pas d'acteur.
ou plutôt les
Oui.
acteurs, je pense, enfin, l'idée c'était plus voilà, comment vous faites aussi pour articuler, ben, voilà, vous chercheurs, designers, usagers, enfin, voilà, est-ce qu'il y a des médiateurs, des dispositifs de médiation scientifique, j'imagine, il en existe forcément à Nîmes, est-ce que vous êtes en lien avec eux ou est-ce que vous vous débrouillez tout seul quelque part dans votre labo?
Alors, je dirais que pour le premier projet, comme c'est un projet auto-initié et où déjà on en est à trouver des financements pour avoir une équipe, voilà, non. En fait, c'est clair que, alors que justement, c'est là ce serait chouette de pouvoir être accompagné là-dessus, mais non. Pour le deuxième, je pense que pour Opric, c'est dans les développements du projet, mais c'est aussi parce que c'est aussi dans un projet ANR, donc il y a d'autres types de budget et de réseau aussi, parce que là c'est aussi une histoire d'avoir le réseau des acteurs de la médiation scientifique qui nous accompagne. Puis je dirais aussi pourquoi pas vraiment, parce que c'est vrai que aussi, vous voyez que quelque part, les outils qu'on utilise pour valoriser la recherche, c'est aussi une manière de renouveler par le design la médiation scientifique. Donc, quelque part, on le prend aussi un peu en charge avec l'idée que c'est aussi une expérimentation d'autres formats qu'on cherche à éprouver, ce qui n'empêche en rien de pouvoir collaborer avec des acteurs de la médiation scientifique. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais en découvrant de belles initiatives comme la vôtre, comment vous dire, ça c'est très stimulant, c'est sûr. Dans cette optique de coordination, de collaboration entre les acteurs, et encore une fois, pour mettre en dialogue nos pratiques de médiation, en fait.
Tout à fait. Merci beaucoup. Je pense qu'on va clore ici. C'était déjà très riche. Merci beaucoup pour voilà, toutes ces précisions, les réponses aux questions, une présentation très claire. Donc bien sûr, voilà, le podcast sera disponible voilà, très bientôt, je pense début semaine prochaine sur notre site avec tous les autres. N'hésitez pas, voilà, à suivre aussi les prochaines séances, à aller voir sur notre site. On a plein de ressources sur la recherche participative, des podcasts, des vidéos, des articles, voilà, et plein d'autres séances de séminaires qui sont aussi disponibles. Et puis on mettra des liens éventuellement, voilà, vers la présentation de Marie-Julie, vers les projets dont elle a parlé. Donc n'hésitez pas à nous rendre visite aussi sur le site Boutique des Sciences. Et merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi ce séminaire.
Merci beaucoup, en effet, c'était très 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 stimulant toutes vos questions. J'imagine que c'est aussi parce que vous pratiquez aussi ce type de méthode. Donc j'aurais eu à cœur de savoir comment vous faites. Donc j'ose espérer que ça augure d'échanges prochains
Tout à
développés. Maintenant, nous sommes en contact.
fait. Très bien. Merci beaucoup et bonne soirée à tous et à toutes.
Merci.
Au revoir.